Ce soir, je vais toucher sur un sujet, je vais dire honnêtement, c'est un sujet énorme. Je confesse que je ne suis pas du tout un expert et je ne peux pas amener un profond dans ce message que je voudrais faire. Je ne suis pas un expert médical sur quand la vie commence dans le ventre d'une mère. Je ne peux pas parler de la chose dans un sens médical quand un bébé est conçu. Mais je vais communiquer certains points principes que la Bible parle sur ce sujet. Psaume 139, c'est un psaume que j'aime. C'est souvent un psaume que je lis en voyageant, en train de prendre un avion ou de prendre le transport pour partir. Je suis touché de souvent lire ces versets. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondes de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyant, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Wow. Dieu parle de nous. Et avant la fondation du monde, il était immolé pour chacun de nous. Romains chapitre 5, versets 6 et 8. Verset 8, c'est l'amour de Dieu. Et avant, il était mort pour nous. Jean 3, 16. L'amour de Dieu et la conséquence, le Fils était envoyé. Envoyé pour mourir dans notre place et pour, bien sûr, accomplir la justice du Père. Le plan de Dieu, depuis Genèse chapitre, en fait, avant la fondation du monde, mais on va définir avant la chute, était sur une montagne, le jardin d'Éden, en Ézéchiel chapitre 28, que Adam était préparé pour cultiver le jardin et après, évidemment, une montagne sainte avec la présence de Dieu, c'était pas de rester là. Ça, c'est le début de quelque chose. Si on imagine et on extrapole, on multiplie, c'est pas possible pour la race humaine de multiplier et rester dans un endroit. Le but de Dieu est de multiplier, multiplication, ça veut dire mariage, enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de continuer et de populer toute la terre. Parce qu'à la fin, pendant le millénium, ça va être exactement ça. Donc, reproduction, et on va définir une chose, homme et femme, le scène pour les enfants, le cadre pour une famille, et un homme et une femme, mari et femme, mariage, ça c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Et je confesse, je suis d'accord avec la Bible. Donc, évidemment, dans l'union de mariage, les enfants viennent, l'activité relationnelle sexuelle était évidemment là pour le plaisir et pour glorifier Dieu. Mais en plus, c'était pour les enfants. Et les enfants sont la conséquence bien pour ça. Donc Dieu bénit un mariage. Ce n'est pas toujours le cas. Je vais noter ça avant de continuer. On est maintenant dans un monde déchu. Et dans un monde déchu, c'est un monde fissionné, fracturé, brisé. Le péché, en Genèse chapitre 3, a produit énormément beaucoup de souffrance et conséquences à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et maintenant, nous sommes bien sûr héritiers de la nature déchue, mais nous sommes aussi héritiers de les conséquences d'un monde qui est en train de fragmenter de plus en plus. Mais ça, c'est l'idéal de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Un mariage et des enfants, le fruit. Et bien sûr, pas tout le monde est appelé d'être marié. Mais ça commence avec ça. Et donc, le plan de Dieu était commencé et s'est confirmé de continuer en Genèse chapitre 3. Parce que quand Dieu parle à Ève, il dit... de souffrance. Quand tu accouches, il va être plus de souffrance. Ça veut dire, c'était évidemment avant qu'un enfant doit être produit et va être un accouchement. Mais ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux. Donc, juste ce que je voudrais communiquer, le cadre pour le message. Donc, merci, on va continuer de concentrer, on va arriver jusqu'au bout. Donc, voir ça que c'est le plan de Dieu. Bien sûr, pervers, tordu, tout détourné par l'homme. Le sexe est maintenant détourné d'être quelque chose de tellement pervers et on peut voir ça partout. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et on n'a jamais parlé de l'activité sexuelle, mais dans le cadre du mariage, c'est magnifique. Et c'est honoré par Dieu, et c'est pour la gloire de Dieu. Et les enfants, pour la gloire de Dieu aussi. Donc, voir que, oui, on ne peut pas retourner dans un monde sans péché, ni sans absence de péché. On ne peut pas retourner de ça maintenant. Mais on peut continuer de bénir Dieu, et Dieu peut nous bénir aussi. Pourquoi que je dis ça? Dans le cadre d'avortement, dans le cadre de la progression et détérioration de la pensée humaine, dans le sens médical, scientifique, qui réduit un enfant d'être pas un enfant, mais d'être en fait juste quelque chose, ni il, ni elle, mais juste... Voilà, c'est un fœtus. Mais Dieu voit autrement. Avant la fondation du monde, il est mort pour chacun de nous. Ça veut dire, c'est écrit dans sa livre, qu'évidemment, il connaît chacun. Ça, c'est le premier point. Le plan de Dieu. Le Père a planifié, le Fils a accompli le plan, exécution, et le Saint-Esprit révèle le plan et l'exécution du plan. Ça, c'est la Trinité en opération. Au temps d'être né, il est toujours un temps. on est, on peut pas dire destiné, il y a un jour on va être né, il y a un jour on va mourir. C'est déterminé. Certains avancent peut-être pour aller d'être avec le Seigneur un peu plus tôt. Certains vivent un certain temps sur la terre et n'ont jamais de connaître le Seigneur. Fini. En éternité. Enfer, ciel, point d'interrogation. Mais il est un temps pour être né. Et le Seigneur connaît ce moment. Il a planifié ce moment. Le moment que Jésus était né était le moment précis dans l'histoire de l'humanité, pas un accident. Voir si le planeur, le Père qui a plané tout, a déterminé le jour de notre naissance et le jour de notre conception, c'est-à-dire dans les pensées de Dieu, on était déjà en existence. On était dans son plan avant Horatio était né, il a existé dans les pensées de Dieu. Voir comment Dieu pense. On n'est pas un accident, jamais. Dieu honore chacun de nous. Et hier, à Sion, on a honoré les habitants de la ville. On a parlé avec respect, on a écouté. Après, on a prié pour eux. On a déplacé 2 heures d'être là et 2 heures de retourner. On a consacré dans notre agenda un certain temps pour visiter Sion. C'est dans nos prières. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens, hommes et femmes. Il aime les gens transgenres aussi. Il aime les lesbiens, il aime les homosexuels. Il aime les gens si dans une confusion. Il aime chaque être parce qu'on a été créé dans l'image de Dieu. Et si on met cette pensée, on peut dire, il a déjà désigné le jour de notre naissance et conception. Et peut-être, on peut dire, j'étais un accident. C'était jamais le plan de ma mère et mon père. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas un accident pour lui. Et ça veut dire comment il nous estime plus que le monde. Et il faut pour nous qu'on entre dans cette façon de penser. Comme je citais, ses voix sont plus hautes que nos voix, ses pensées plus hautes que nos pensées. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Plus loin de nos pensées. Il a désigné le jour en Ecclésie chapitre 3, verset 2. Il est un jour d'être né, il est un jour de mourir. Et pour nous, on peut dire, ma vie n'a aucun sens. Oui, tu n'as pas trouvé le sens. Peut-être quelqu'un est chrétien, mais peut-être voici en train de voyager dans cette vie avec aucun sens. Mais Dieu a désigné le jour de ta naissance avec des plans de paix et parle de malheur en Jérémie chapitre 29, verset 11. Et donc, il est un jour, il est un temps, il est une saison. Pour tout, guerre, paix, amour, haine, maladie, souffrance, il est une désignation, Dieu a mis tout. Ce n'est pas existentialiste comme, ou nihiliste comme Jean-Paul Sartre. C'est pas, on ne sait pas pourquoi on est. Non, on n'a pas trouvé peut-être, mais il y a un but pour la vie. Il y a un but que nous sommes là. Et quand on trouve notre but, on peut le vivre glorieusement devant le Seigneur et on peut toucher les autres. Donc, voir, on n'est pas un accident et on est né et c'est le jour de notre naissance. Imagine ça, le jour de notre naissance, en Psaume 127, verset 3, un enfant est un héritage pour le Seigneur. Un héritage donné à nous. évidemment, je veux répéter, ça c'est bien sûr l'Ancien Testament, pensée hébraïque, comment Dieu honorait le peuple juif. Et des fois, les gens avaient un regard sur ça automatiquement. Mais pour quelqu'un qui ne va jamais marier, jamais avoir des enfants, comment on met ça en pratique dans cet âge maintenant? Mais on respecte et on regarde comment Dieu pense en général. Et on applique ça aussi dans nos vies parce qu'on est un enfant et maintenant nous sommes des adultes. Donc, évidemment, on est les conséquences et on vit ça. On est un héritage pour quelqu'un. Dieu a donné afin qu'il ait un bout dans ma vie. Et une joie. On est une joie quand on voit un bébé. Je me rappelle la première fois que j'ai pris un bébé, je n'étais pas sûr de quel côté, là ou là. Et le ventre commence. Et j'ai dit, ah, je suis content, il y a quelque chose pour le bébé. Ah, sinon, c'était Ryan, il est le fils de la neveu d'Isabelle. Il est un grand bébé, vraiment un grand bébé. Grand bébé. Grand bébé. Non, she's that. Oh, wow, praise the Lord, merci Seigneur. Wow. Psaume 139, verset 15 et 16, le prochain point. Donc, le premier point, le plan de Dieu. Le deuxième point, il y a un temps pour tout, un temps d'être né. Troisième point, Dieu me voit. Dieu me voit. Verset 15. Il voit, je suis caché. L'homme ne peut pas voir, je suis dans le ventre de ma mère. Mais Dieu me voit. Donc nous avons maintenant, est-ce que ça s'appelle escoscopie? Quand on regarde le bébé, la forme? Échographie de voir le ventre. Et c'est super que c'est possible pour la science de faire. Mais Dieu, il a une façon de regarder le ventre d'une mère. Il voit le bébé dans une façon que l'homme ne va jamais voir. Et en plus de ça, si on voit en 1 Samuel chapitre 16 que Dieu regarde le cœur de l'homme, mais l'homme voit juste l'extérieur, on peut dire Dieu voit quelque chose que l'homme ne va jamais voir. Le cœur de l'homme, il va voir le cœur du bébé. Il va voir l'homme, le bébé, exactement dans cette façon. Il voit le passé, présent et futur. Dieu, on ne peut pas expliquer comment Dieu peut nous voir, mais il voit en tout dans un moment, il peut voir notre passé, notre présent, notre futur. C'est un mystère. Mais pourquoi que je dis on n'est pas caché de Dieu? Parce que Adam était en train de cacher. Adam, tu es où? Je suis là derrière de cette buisson parce que je suis nu et j'ai peur. Je te vois, Adam, comme tu es, et je t'aime. Aujourd'hui, si on peut croire qu'un bébé dans le ventre de sa mère, Dieu voit, il regarde une personne, pas un fœtus, il voit une personne. Paul était mis à part, on va parler de ça dans une minute, parce que Dieu a vu Paul dans la scène de sa mère, il a dit, wow, ça c'est mon apôtre qui va être un témoignage pour toutes les nations, qui va être un témoin pour toutes les nations. Donc, voit, Dieu voit tout. Application, il était toujours en train de nous regarder. Dans notre difficulté, il nous regarde, il dit, je suis là, viens, suis-moi. Quand j'étais dans le sein de ma mère, il m'aime. Ce n'est pas juste un regard froid et distant, c'est un regard de relation. Comment Jésus regardait des hommes et des femmes quand il était sur la terre? Avec un regard d'engagement. Viens, suis-moi, je t'aime, j'ai un plan pour votre vie. avec les pharisiens, un reproche, en colère de voir comment le roi est détourné le message de Dieu. Mais de regarder comment Dieu est toujours en train de regarder l'homme et femme pour connexion. Et pour un bébé, connexion, tous et relation avec notre Dieu. Ce n'est pas un système. Dieu me voit. I see you. Je te vois. I see you. Je te vois comme tu es. Tu as un visage comme ça, mais dans le cœur, je vois le cœur. On est exposé. Hébreux chapitre 4, verset 13. Toute l'humanité et nous est exposée devant lui. Donc, il voit un bébé. Il voit le bébé. Il voit l'être. C'est une personne qu'il regarde. Wow! C'est magnifique. Il n'est pas ignorant. C'est un mystère pour l'homme, mais pas un mystère pour Dieu. Et versets 13 et 14, c'est le quatrième point. En Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes œuvrage de Dieu. Ça veut dire qu'il a une œuvre accomplie et nous sommes en fait l'œuvrage. On est comme une pièce d'art. Pierre d'art, un dessin, un tableau beau et bel et waouh, et on pense waouh, on est plus que ça. Ça, c'est un objet, mais nous sommes un être créé dans son image. Comment les gens peuvent regarder un fœtus et dire c'est pas une personne? Comment ils peuvent. Tu sais qu'ils ont fait. En Auschwitz, dans la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont fait. Le moment que les juifs, femmes, hommes et enfants, entraient dans le camp de concentration, extermination, pas concentration, extermination, ils ont enlevé, je crois, ils ont enlevé toutes les choses, les biens, tout ce qui identifie la personne. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas une personne, il ne veut voir pas une personne. Il veut voir juste un chiffre. Et qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui sont dans le camp, ils ont un tatou, je ne sais pas de ce côté ou de ce côté, un tatou d'identification avec un homme, je crois. Voir comment l'homme sophistiqué, avancé technologiquement, avoir un regard sur l'homme et dis-moi que nous avons avancé au-delà de ça, on est mieux maintenant. Je vous assure pas, on n'est pas avancé, c'est le même esprit, c'est le même cœur, c'est la même méchanceté et plus de possibilités de reproduire ces horreurs et abominations. Comment, qu'est-ce que Dieu pense à ça? Donc, Dieu, quand on est créé par Dieu, il dit bravo. Il est comme moi. On est créé comme lui. On est la création. Et en verset 13, on a parlé de Ephésiens 2, chapitre 10, 2, verset 10. C'est un œuvrage de Dieu. On parle de la nouvelle création. Parce qu'il parle, on est créé en Jésus-Christ. Mais avant ça, il est le. Première création, on était créé, bien sûr, avec en iniquité, on peut dire, en Psaume 51, bien sûr, avec une transmission de péché, ancienne nature, pécheresse, en Psaume 51. Mais il faut savoir, Dieu a fait une œuvre de tisser, de mettre mes membres, afin que je puisse être construit, pas juste les cellules, mais il plante et prépare des choses. Ce n'est pas une préparation froide, je cherche pour le mot, comme dans une usine. Universelle, la même taille, la même dimension. Non, chacun est différent. Quand on était formé dans le ventre de notre mère par le processus, Dieu a sa main sur nous. Ça veut dire Dieu était en train d'être occupé avec notre préparation. Et c'est individualistique, c'est pas, on n'est pas des clones. Chacun de nous dans cette salle ce soir, chacun qui est connecté par Zoom, chacun qui peut écouter ce message ce soir, une autre fois, vous avez des yeux différents, des oreilles d'une certaine taille, un visage d'une certaine façon, certains plus ronds, certains plus anguleux. On est tous différents. Certains avec cheveux, certains avec moins de cheveux, certains avec un corps plus comme ça, certains avec un corps plus comme ça. On est tous différents. Certains avec les bras plus longs, certains avec les bras moins longs. On n'est pas le même. Chacun est différent. Individuel et unique. Et Dieu, dans cette œuvre, n'était pas mécanique. On peut dire, oui, Dieu a fait un travail. Si c'était avec un système de règles, comme dans une usine, tout est comme ça, et la boîte ou la construction est faite est la même. Sur un tapis roulant, tout est... Voir comment le robot construit les voitures dans une usine. Mais nous ne sommes pas créés comme ça. On est écrit individuellement. Qu'est-ce que ça implique? Que le plan de Dieu est déclenché dans nos vies. Et il nous aime comme nous sommes. Et comment on peut aller plus loin avec ça? Relook, chirurgie cosmétique, toute cette industrie de changer. Je veux avoir un nez un peu plus court, je veux mes yeux. Voilà, tout ma visage changé parce que je ne suis pas content avec ça. Ou je suis un peu plus âgé, donc je veux avoir tout pour être plus, qu'est-ce qu'on peut dire, de réformer le visage, de donner l'appearance d'être plus jeune. C'est l'homme dans sa arrogance et orgueil de penser qu'il peut changer la nature, premièrement. Deuxièmement, il n'accepte pas qu'on est créé comme ça par Dieu. Et Dieu a dit, en Ecclésiastes chapitre 3, chacun est bel dans sa tombe. Chacun est beau ou belle maintenant. Et Dieu a dit, vous pensez que tu dois changer tout? Faire les sports, oui. Mange sainement, oui. Faire tout ce nécessaire de honorer Dieu parce que nous sommes le temple de le Saint-Esprit. Mais d'essayer de lutter contre la nature et lutter contre Dieu. De lutter contre Dieu est toujours en vain. Ecclésiaste parle vanité de vanité, tout est vanité. Et l'homme têtu, comme toujours, refuse d'accepter la réalité. Nous sommes passagers. On est en train de finir notre course. Et pour le croyant, on va finir et on va être comme C.S. Lewis décrit, plus comme un ange. Magnifique dans notre corps glorifié. Et nous, pour 70 ans et pour certains mois de ça sur la terre, on lutte d'être, de reformer, relook tous. Pour garder quelque chose, on ne peut jamais garder. Mais pour le croyant qui reste, pour le disciple de Jésus qui accepte et repose dans l'œuvre de complet et accepte ce que Dieu est en train de dire ici, je suis merveilleusement créé. J'ai fait une partie de mes études en Angleterre et de faire le massage de sport et anatomie et physiologie. Et j'ai fait une année de ça. Et déjà, j'ai certaines connaissances sur le corps, comment ça marche, etc. C'était magnifique de profonder un peu. C'était vraiment peu. Donc, pas du tout le même niveau et j'oublie beaucoup. Mais de voir comment le corps marche, comment nous avons le foie, les reins, cœur, nous avons tous ça en train de marcher, le sang qui transmet et pousse l'oxygène, qui nourrit et puis passe et transmet, qui coagulate aussi pour former et protéger le corps, le peau qui est l'organe le plus grand dans le corps humain, les joints et comme la stabilité de nos hanches, le plus stable, le joint le plus stable et le mouvement on peut faire en trois dimensions. Comment ça c'est miraculeux? L'œil qui n'a pas évolué, c'est évidemment évolution ne marche pas parce que nous avons un œil tellement précis qu'il peut recevoir la lumière. Voir quand le plus on profonde dans l'anatomie et physiologie, le plus on peut voir la main de Dieu. C'est pas un être, c'est un système, qu'est-ce qu'on peut dire, systématique, froide, automatique, comme un appareil. Non, c'est un être qui a pensé à ça. C'est un être qui a créé nous avec la physionomie que nous avons tous. Et on peut dire, Amen Seigneur, il a créé les mains, il a créé les bras que le peuple peut se porter comme ça. Et je peux louer le Seigneur, et je peux chanter, et la communication que je peux faire, c'est parce que je peux confesser, Seigneur, je suis merveilleux, une création merveilleuse. Et l'homme, sans son folie, pense qu'on va créer les intelligence artificielle et les robots qui peuvent imiter être humain, mais avec aucune âme et aucun sens de la morale. Juste programmer comme ça. Et nous, on est des miracles en marchant. On a la stabilité, nous avons les sens, on peut discerner, on a un équilibre, on a un regard, on peut discerner. On peut rappeler, le sens de rappel est intelligent, c'est extraordinaire. On peut discerner par un arôme ou un parfum, une mémoire de notre passé. Là, on est vraiment merveilleusement créé. Et le psalmiste David a parlé de ça, il a dit, wow, c'est extraordinaire. Et comment notre corps peut être tellement endurant. Quand je vois Thiago, la façon qu'il fait la gymnastique, et Melinda, et je pense, on est tellement élastique, il peut facilement casser, mais il ne casse pas, il est comme ça. Je dis, wow, on est tellement créé merveilleusement. Pour la gloire de Dieu. Et l'homme regarde et voit ça, et il dit, oh, c'est normal. Nihilisme, philosophie, Jean-Paul Sartre, wow. Mais on est tellement aveugle, on a un sac de Migros sur la tête, on est en train de marcher comme ça, tellement aveugle, ignorant. Et Dieu dit, regarde et tu vois dans la nature, tu me vois, en Psaume 19. Voir comment l'homme, il a un but d'éliminer le pensée que le fœtus est une personne. C'est une personne en train d'être née ici, formée, conçue dans le ventre. Et on voit comment l'œuvre est tellement précise et petite et prend le temps. C'est pas comme le microwave pizza, on met dans le micro-ondes, bing, 2 minutes, c'est la pizza est fait, non. Wow, ça c'est vraiment la cuisine parfaite. Non, ça c'est n'importe quoi. Et si on pense que c'est prendre un temps de faire une pièce de, qu'est-ce qu'on dit, masterpiece, vraiment culinaire, quelque chose de magnifique, une œuvre d'art magnifique dans la cuisine, comme en plus, parce que nous sommes créatifs, comme Dieu est plus créatif. Et l'homme pense, non, c'est rien, ça, c'est pas une personne. Donc, Dieu, dans sa création, point numéro 4. Vous êtes avec moi, c'est bon? OK? 10 points et on va finir. 10 points, non, je rigole. Il nous connaît. Jérémie 1, verset 5. avant j'étais né, avant dans le ventre de ma mère, je ne connais pas Dieu. Parce que je connais le cœur, je connais la personne de Jérémie. Et Jérémie, j'ai un plan pour toi. Avant, et Jérémie dit, non, mais je suis juste un jeune. Oui, mais je connais, te connais avant tu étais né. Connaître, connexion, relation. Et si Dieu parle, c'est le même Dieu qui parle maintenant, qui communique avec nous et utilise le code vocal. Il est même Dieu. On dit, mais Dieu n'est pas dans ma vie. Oh, vraiment? Tu as évité de casser la voiture hier et tu penses que Dieu n'était pas peut-être là pour aider de faire ça. Tu es en train de demander, Seigneur, est-ce qu'on aide-moi avec cette facture des impôts de 35 000 euros? Et tu penses que le Seigneur n'a pas conduit dans ce moment aussi? Le Seigneur est dans toutes les choses de notre vie, il nous connaît. Il connaît chaque moment de notre vie, il connaît les inquiétudes de nos cœurs. Et tu penses que Dieu n'est pas capable de nous gérer, de nous combler, de nous aider, de soutenir? Sanctification. Pas juste tu es né, Jérémie, point numéro 5, sanctification. Le 6, pardon. Tu es sanctifié parce que j'ai un plan pour toi, Paul, et tu étais en train de rester dans le sein de ta mère, mais j'ai un plan pour toi. Donc, avant tu as fait quelque chose, avant tu as sauté, avant ta mère a accouché, j'ai déjà des plans. Est-ce que quelqu'un fait un plan de temps le week-end avant la semaine? Une liste de choses qu'il faut faire cette semaine, grande liste. Ok, demain j'ai ça, mardi j'ai ça, et on liste de choses. Et avant d'arriver à lundi, on est déjà prêt pour aller. On est tous en place, les chaussettes sont devant la porte, le sac préparé, on est déjà appelé, on a mis tout en organisation. Comment Dieu a déjà préparé pour ça avant d'être né? Il a préparé tout en place. Et on dit, on sort de la ventre de notre mère, on est un bébé, et tous étaient déjà placés. Par Dieu. Et donc, quand on est né de nouveau, on entre dans cette plan, et tout ce qui est configuré peut entrer dans l'exécution. Tout peut être déclenché. Maintenant, tu es avec moi, maintenant, on y va. Dieu est le meilleur planeur. Il a planifié tout. Et on pense que ce n'est pas un accident. Et des fois, les gens disent, non, je suis un accident. Non, peut-être que tu sembles que tu es un accident, mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un accident. C'est comme ça que nous sommes créés. Mais tu es un être aimé. Tu es une personne. Mis à part, planté là, ok, on attend Paul. Tu vas tuer les chrétiens. On attend, tu vas être un pharisien devant Gamaliel, entraîné, informé, mais on va attendre. Un jour, tu vas entrer dans le plan. Et la dernière chose que je vais dire, point numéro 7. Luc chapitre 1, verset 44. Luc 1, 44. Ça, c'est extraordinaire quand je lis ça. C'est aussi un peu rigolo. Marie est déjà Jésus conçu dans le savon. Elle arrive devant Élisabeth et le Saint-Esprit a déjà dit, Élisabeth va avoir un enfant. Elle est maintenant six mois avec l'enfant. 6 mois. Et là, croisé, Élisabeth a approché la maison. Elle a dit bonjour. Et la bébé, Jean, il a sauté avec joie dans sa ventre. Conscient. Elle écoute. Il était déjà une personne, on peut dire. Il est une personne. Jean était conscient. Il a une écoute. Et parce que Gabriel a dit, l'ange, le Saint-Esprit va remplir ton enfant depuis avant la naissance. remplis avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et Jésus, évidemment, une joie, une connexion. Et le bébé est sorti. Et moi, je n'ai jamais expérimenté ça. Je ne vais jamais expérimenter. Mais une femme peut dire ouf quand le bébé dans le ventre sort comme ça. Conscient. Déjà en train de discerner, je sais dans le niveau, dans le monde médical, il parle de quand on peut définir qu'un bébé est conscient. Apparemment, avant 6 mois, Dieu pense complètement avant, il regarde la personne, elle est déjà là. Voir comment Dieu nous regarde maintenant. Si Dieu aime un bébé avant la naissance et il dit Jean, Pierre, Paul, je te connais, tu es une personne créée dans mon image en train d'attendre pour sortir, comment le même Dieu va nous regarder maintenant? On n'est pas juste numéro 366 ou 9 dans notre passeport. J'ai un passeport avec une photo et un numéro X0, je ne sais pas le reste, 9, etc. Un chiffre. Mais je ne suis pas un chiffre. Et un bébé n'est pas juste un être. Il est un enfant, il est une personne. Avec un nom, avec un sens unique, avec un plan devant Dieu. Il faut savoir ça, c'est comment Dieu pense. Et nous sommes précieux dans ses yeux et il est mort pour chacun de nous. Il est mort pour chacun dans ce monde et il regarde les bébés tissés dans le ventre. Dieu regarde et il aime. Il dit, je couvre. Donc on doit voir comment Dieu pense quand on voit le vautrement maintenant. Quand les gens, ah, qu'est-ce qu'on peut dire, engage de tuer un enfant, qu'est-ce que Dieu va penser de ça? Et qu'est-ce que Dieu va dire aux personnes et cette multitude de gens qui justifient le meurtre, c'est un meurtre, des enfants, par une philosophie ou les évidences de science? Et qu'est-ce que Dieu va dire à cette personne, je pense, quand ils sont devant lui dans le dernier jour? Donc, l'importance pour nous de comprendre comment Dieu pense à nous maintenant et nos enfants, et comment les enfants sont précieux, comme un enfant dans le ventre, pas né, est précieux. Comment la vie, on peut expliquer un peu plus loin, comment la vie jusqu'à la fin de la vie est précieuse pour Dieu. Aussi, parce qu'on peut regarder quelqu'un vieil, c'est une personne créée dans l'image de Dieu et Dieu aime chaque personne. Mais ce soir, le principe est plutôt de regarder avant. Qui protège les doigts d'un enfant pas né? Qui va protéger l'enfant? J'espère la maman. Mais après de sortir de la ventre, l'enfant est précieux devant Dieu. Il est un plan, pas un accident. Et si le monde peut comprendre ça, je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'un monde différent. Et un jour, ça va être un meilleur monde avec le Seigneur. Waouh. Nous sommes merveilleux devant le Seigneur, chacun de nous. Et respecté, aimé et honoré. Petit ou grand, unique et précieux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette parole ce soir. Merci pour tes pensées précieuses devant nous et ton engagement envers nous, toujours fidèle. Bénis chacun de nous dans un repos dans la foi. Sois glorifié, Seigneur. Merci. Amen.